et les journalistes Jérôme Tubiana et Vincent Hugeux.
Géopolitique.
Vous m'en direz des nouvelles ?
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir.
C'est donc si grave ?
J'ai vu le cancer. Elle est perdue.
Si c'est ça, je me tuerai.
Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime ?
C'est elle, c'est vous, mademoiselle, moi qui aime tant votre voix.
Il me fatigue avec son emploi du temps, j'ai envie de le laisser.
C'est un cri d'amour.
Évidemment, il faudrait un peu de sentiment et je me demande...
Je t'interdis.
Toutes portes ouvertes.
C'était en 1962, Cléo de 5 à 7, l'un des grands films d'Agnès Varda qui nous a quittés à l'âge de 90 ans. Elle avait commencé comme photographe du Festival d'Avignon avant de prendre sa place parmi les pionniers de la Nouvelle Vague. On peut citer Le Bonheur, prix Louis de Luc 1965, Sans toi ni loi, Lion d'or à Venise en 1985, où la plasticienne, adepte des installations artistiques, allait exposer à la Biennale 18 ans plus tard. Mais aussi Jacques de Nantes, d'après les souvenirs d'enfance d'un autre grand nom du cinéma, Jacques Demy, avec qui elle aura un fils, Mathieu. Sans oublier ses documentaires, Les plages d'Agnès, qui lui valut un César en 2007, ou Visage Village, avec un autre artiste, J.R. Le cinéma, le féminisme aussi, elle en parlait, c'était en janvier 2018, alors que le festival Premier Plan d'Angers la mettait à l'honneur. Elisabeth Le Quéré l'interrogeait sur son éternelle jeunesse.
Surtout pas éternelle jeunesse, non. Vieillesse vivace, c'est ça qu'il faut dire. Vieillesse vivace, cheveux à deux couleurs pour rigoler, bonne humeur, quoi qu'il arrive. Parce que les vieux qui râlent et les vieux qui parlent de leur maladie, pour moi c'est le cauchemar. Donc il faut être un vieux, simplement décent.
J'ai revu vos premiers films ici, et ce qui me frappe, c'est que depuis toujours, il y a une vraie liberté, il y a quelque chose de très léger, de très ludique, en fait, dans vos films. C'est votre caractère à vous, ça ?
Non, parce qu'il faut, avoir de la tristesse et de la mélancolie. Mais ce qu'on propose aux gens, il faut partager quelque chose. La preuve, c'est qu'on est si content quand il y a du monde dans les salles. Moi, quand je suis applaudi, ça me fait très plaisir.
Vous avez été très très chaleureusement applaudi quand vous avez reçu un Oscar d'honneur à Hollywood. C'était en novembre dernier. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de monter sur le podium ?
Oh, vous savez là, je suis pas timide, donc ça c'est pas un problème. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait devant moi le monde d'Hollywood. Il y avait que des stars et des gens qui représentent des sommes énormes d'argent. Ça veut dire qu'il y a de la place. Pour le cinéma courageux, il y a de la place pour le cinéma marginal. Ça veut dire qu'ils sont contents de me voir, donc ils sont contents de voir mes films.
Est-ce que c'était pas aussi un peu un acte féministe de donner un Oscar à Agnès Varda ?
C'est pas nouveau pour moi le combat. Il y a que c'est le combat continu. Le féminisme, ça a gagné beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de réalisatrices, beaucoup de techniciennes. Ça a changé depuis que je suis jeune. Mais le combat pour les mentalités, il y a du boulot.
Mais est-ce que vous pensez qu'on vit un moment crucial du féminisme ?
On vit un moment de société. Un moment de société, parce que c'est pas le féminisme, c'est la conscience, maintenant, qui est mise en éveil chez les hommes et chez les femmes. Je pense que la crise actuelle va secouer beaucoup, autant les hommes que les femmes. Et c'est bien. Il faut qu'il y ait des crises. Je veux dire, il y a des excès affreux, pas justes. Mais on secoue la société en disant les hommes se comportent mal avec les femmes. Et les femmes ont trop souvent accepté. Et moi, je suis une femme qui a toujours été en colère. Moi, j'ai pas été agressée parce qu'il y a des femmes qu'on ne peut pas agresser, même quand j'étais mignonne et jeune. Non, parce que vous avez aussi une attitude. Mais il y a des femmes qui sont plus faibles, qui ont envie de séduire, qui ne se rendent pas compte des degrés de danger, si j'ose dire.
Mais justement, cette lettre qui a été signée par 100 femmes, Catherine Millet, Catherine Deneuve, qui dénonce en fait le puritanisme, qui est anti-féministe d'une certaine façon.
C'est compliqué. Je ne sais pas si elles ont eu raison de faire cette lettre. De même que je ne sais pas si les autres ont eu raison de gueuler, dénonce-t-on pas. Voyez. Il ne faut pas que ça devienne la lutte des sexes.
Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre à ces femmes ?
Je ne réponds pas. Quand on fait signer des gens connus, ça devient de nouveau un acte de mondanité. Ce qui est intéressant, ce serait que 500 femmes, des ouvrières, des travailleuses et des femmes chics, que tout ensemble, elles fassent un texte. Mais quand c'est des gens connus, ça redevient un acte de publicité. Moi, je suis contre la publicité, contre l'exagération. Moi, justement, je suis féministe, et depuis toujours. Tout ce qui a avancé, on l'a fait avec des hommes.
Agnès Varda au micro RFI d'Elisabeth Le Quéré en janvier de l'an dernier. Une forte personnalité. Agnès Varda en gardera aussi évidemment à l'esprit sa coiffure bicolore, sa coupe au bol, blanche aux racines, brune en dessous. Le décès d'Agnès Varda, on l'a donc appris ce vendredi matin. Et c'est un autre réalisateur de cinéma que nous avons rencontré hier en vue de l'émission d'aujourd'hui. Interview réalisée donc avant l'annonce du décès d'Agnès Varda pour évoquer un film pas tout à fait comme les autres.
Sur RFI.
Quand on sort de la salle de cinéma, on a l'impression d'avoir passé un bon moment. C'est qu'on est tombé sous le charme des personnages que l'on a vus sur l'écran, dont on se dit qu'ils nous ressemblent un peu, mais pas trop. Et puis si, finalement, enfin, peut-être que non, sauf si, enfin bref. Des personnages qu'on aime tous, au fond, parce que si, ils sont vraiment comme nous, avec quelques qualités et pas mal de défauts. Des personnages profondément humains, qui vivent une histoire ancrée dans la vie quotidienne, mais teintée d'un zeste de loufoquerie et d'un soupçon de poésie. Une vraie comédie, donc drôle, fine et légère, même si elle évoque des questions lourdes. La laïcité, le harcèlement scolaire, l'idée même du socle républicain qu'est l'école publique. Un film jubilatoire qui en dit long sur la société française, qui nous fait réfléchir sans nous prendre la tête. C'est peut-être ça aussi, au fond, la magie du cinéma. La lutte des classes, le nouveau film de Michel Leclerc, sort mercredi prochain sur les écrans français. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Michel Leclerc.
Bonjour.
Au début du film, Sophia, Leïla Bekhti et Paul, Édouard Baird, quittent Paris pour emménager dans un petit pavillon de Bagnolet. Bagnolet, c'est cette ville de la banlieue est de Paris. Et c'est là qu'est née Sophia, qui est devenue avocate, hein, ce qui n'était pas gagné d'avance. Parce que pour elle, et c'est pas si fréquent que ça aujourd'hui dans la France du 21e siècle, l'ascenseur social a bien fonctionné.
Oui, absolument. C'est quelqu'un qui s'est hissé socialement. On imagine qu'elle a passé le périphérique, c'est-à-dire qu'elle est passée en centre-ville, qu'elle s'est embourgeoisée. On imagine que l'école, pour elle, a été effectivement, elle a bénéficié d'un ascenseur social, et elle revient un peu en fille prodigue, on va dire, dans sa ville natale, sauf qu'elle a changé de classe sociale. Elle habitait dans une tour et maintenant elle habite dans un pavillon. Voilà. Et donc naturellement, elle est en couple avec Édouard Baird. Ils ont un enfant, un fils qui a 8-9 ans, qu'ils mettent assez naturellement dans l'école de secteur du quartier où elle-même a été.
Voilà, et son fils, donc ce petit Corentin, qui est joué par Tom Lévy, il est donc métis, il est donc un peu arabe.
Oui.
Ça se voit pas sur son visage.
Oui.
Et elle en souffre un petit peu, Sophia.
Ben, c'est-à-dire que c'est son grand paradoxe, c'est-à-dire que elle s'est tellement intégrée que paradoxalement son fils est vu dans cette école comme le petit blanc de service, ce qui évidemment pour elle est assez dur à entendre et un peu compliqué.
Oui, d'autant que elle, dans son cabinet d'avocat, elle est un peu considérée comme l'arabe de service.
Exactement. Donc c'est un personnage qu'elle cul entre deux chaises, on peut dire, et qui est vraiment un peu en perte de repère. Elle sait plus très bien qui elle est,
oui,
en fait.
En revanche, son compagnon Paul, lui, il a vraiment des certitudes. Alors lui, c'est vraiment le personnage ancré dans son idéal, peut-être même dans son idéologie. C'est un idéaliste ou un idéologue, Michel?
Je dirais que c'est un anarchiste, donc qui s'est formé, c'est parce que c'est sa culture, il a grandi dans cette idée de l'anarchie, c'est-à-dire ni Dieu ni maître. Donc pour lui, l'ennemi, c'était tout représentant des institutions, le pouvoir, l'armée, les flics, l'église, et qui, en gros, n'a jamais changé. C'est toujours vécu comme droit dans ses bottes, sauf qu'à un moment donné, il s'est pas aperçu que c'est la société qui a changé. Donc ce qui était évidemment des facteurs de reconnaissance de la gauche, avec le temps, les choses se sont un peu brouillées. Et à sa grande surprise, lui qui a toujours l'impression de penser de la même manière, il est aujourd'hui mis dans le camp des bourgeois et de tout ce qu'il détestait avant.
Voilà, et ces deux personnages qui ont la gauche en partage, ils croient aussi dur comme fer à l'école publique. Alors, quand il se produit dans l'école de leur fils un incident qui amène les parents à enlever leurs enfants les uns après les autres pour les mettre dans le privé, eux veulent à tout prix résister à la tentation, même si le petit Corentin, bah, forcément, aimerait bien rejoindre ses copains.
Pourquoi je peux pas y aller à Saint-Benoît si tous mes copains ils y vont?
Parce que Saint-Benoît, c'est privé. Et le privé, c'est dégueulasse,
mais
tu vois, c'est la sélection, c'est la justice.
Ce qui est injuste, c'est que je peux pas y aller.
Non, je te dis que le privé, tu vas pas aimer, c'est tout propre, c'est tout net, t'as rien qui dépasse.
Ouais, ça a l'air bien.
Mais non, je te dis.
Le privé, c'est l'argent, c'est les riches qui vont là-bas, mon cœur.
Ça veut dire qu'on est pauvres, non?
Mais non, ça veut pas dire ça, mais...
Bah, alors pourquoi je peux pas y aller?
Parce que le privé, c'est la rupture du pacte républicain. C'est l'ascenseur social qui se bloque.
C'est-à-dire qu'on on est des rebelles. Tu vois, nous, on est des rebelles. On fait rien comme les autres. On n'a pas peur d'être seuls contre tous. On est des pirates.
Mais c'est la fin de l'égalité des chances.
Des pirates. Voilà, on est des rebelles, hein, résume Paul, hein, le personnage d'Edouard Baird, qui est donc avec sa compagne Sophia, incarnée par Leïla Bekti, entend bien inculquer à son fils les valeurs auxquelles tous deux croient, parce que dans la première partie du film, Michel Leclerc, les deux parents sont vraiment sur la même longueur d'onde, et puis ensuite, ils vont évoluer sous le poids de la réalité, sur le poids de ce que va vivre leur fils dans sa classe, ou en tout cas l'image qu'ils en ont. Et là, en fait, on arrive à cette tension, hein, mise en valeur sans faire trop intellectuel, par le sociologue Max Weber, hein, pardon de citer les grands auteurs, entre éthique de la conviction, donc éthique des idées, et éthique de la responsabilité, autrement dit, entre l'idéal et la réalité. C'est absolument ça, finalement, le drame de la gauche aujourd'hui?
Ah ben, ça a toujours été le drame de la gauche. Je pense que, vraiment, on est tout le temps là-dedans, dans cette espèce de contradiction entre vouloir absolument faire société, par exemple, que dans le cas de mes personnages, que leur fils fréquente des gens qui ne sont pas de leur classe sociale, par exemple. Ils croient dans la mixité, puisqu'ils sont eux-mêmes un couple mixte. Donc c'est quelque chose qui est... Mais en même temps, évidemment, il y a le bien-être de ces enfants, et qu'on a tous en partage. Et où est le curseur? À quel moment on doit commencer à s'inquiéter parce qu'on a l'impression que son enfant ne va pas bien? Est-ce qu'on se fait pas des idées? Est-ce qu'on n'extrapole pas? Est-ce qu'on ne surinterprète pas le mal-être parce qu'on a peur? Parce qu'un des grands sujets du film, c'est quand même la peur. La peur qui prend ses parents, qui veulent une société plus juste et qui finalement sont eux-mêmes poussés à mettre leur fils à l'abri.
Alors là, vous pointez du doigt une vraie réalité, hein, dans nombre de familles françaises de gauche. Aujourd'hui, vous avez débattu avec vos comédiens, avec Edouard Baird, avec
énormément, Bekti. Énormément.
C'est important pour vous qu'ils prennent aussi ça en charge,
oui,
sans forcément coller à leur personnage dans leur propre vie. Mais
c'est très compliqué. C'est que quand on fait un film sur un sujet politique et finalement assez délicat, puisque vous le disiez tout à l'heure, ça traite de sujets parfois, par exemple comme la religion, comme un certain nombre de sujets délicats. Vous avez intérêt, avant de tourner un film comme celui-là, à vraiment discuter avec vos comédiens pour que chacun soit sûr de ce que le film raconte et soit sûr de ce que le film ne raconte pas. Ouais. Parce qu'on est tout le temps sur une espèce de ligne de crête où, évidemment, il est hors de question de stigmatiser quoi que ce soit, mais avec quand même un désir de parler des choses. Et de ne pas comme ça tourner autour du pot et de parler des choses, de parler. Donc effectivement, avec Leïla et Edouard, on a énormément parlé de ces questions, oui.
Et ils ont changé d'avis en raison des dialogues, en raison du scénario que vous avez écrit.
Ça faudrait leur demander, mais il me semble que Leïla, qui a eu un bébé au moment où elle a lu le scénario, qui a grandi dans l'école publique, etc., ne s'était, en tout cas pour son enfant, pas du tout encore posé cette question. Et aujourd'hui, enfin en tout cas, c'est ce qu'elle dit dans les interviews, elle pense vraiment qu'elle veut absolument mettre son enfant dans le public, par exemple.
Pour le haut plateau de Belleville, d'où je vois toute la ville, et pour le vent qui tourne autour des fenêtres de la tour, pour le trottoir ruisselant, pour le café, les croissants, et pour l'accordéon qui boite au fond du souterrain moite, pour la nuit sur les bateaux mouches, et pour sa bouche. Merci. Pour la mer, car elle est gratuite, et pour certains soirs de cuite, pour les vieux murs sous les affiches et l'herbe en friche. Merci.
Merci, jeune chérie. Chéral dans VMDN sur RFI, une chanson dont on entend quelques mesures dans votre film La lutte des classes qui sort mercredi prochain. Michel Leclerc, pourquoi l'avez-vous choisi?
Ah bah, de toute façon, j'adore Jeanne Chéral.
C'est une bonne raison.
Je suis totalement amoureux d'elle. Et déjà, dans mon précédent film qui s'appelait Monsieur Sim, j'y avais demandé de faire la voix du GPS dont Jean-Pierre Bacri tombait amoureux de cette voix. Et puis ensuite, tout simplement parce que cette chanson, me semble-t-il, symbolise bien le couple qui est le couple de mon film. C'est-à-dire que c'est à la fois une chanson d'amour, mais c'est aussi une chanson qui parle de la gauche. Par exemple, pour les congés payés, pour cette pilule insensée. Voilà. Et donc, ça me semblait très important de sceller leur amour, parce que c'est au début du film, à travers cette chanson.
Mais la question politique, c'est forcément une question qui s'insinue au sein d'une histoire d'amour, qui forcément s'insinue au sein d'un couple, parce qu'il y a eu Le nom des gens, oui. Hein, qu'on avait déjà beaucoup aimé, que vous avez signé il y a quelques années, avec cette apparition surprise de Lionel Jospin au milieu du film. On a l'impression que chez vous, Michel Leclerc, il y a une forme de quête finalement de ce que devrait être le couple idéal de gauche. C'est un peu
très tôt par exemple j'ai été marqué par les couples idéaux de gauche, c'est-à-dire Sartre et Beauvoir, John Lennon et Yoko Ono, ça m'a vraiment marqué. Et puis voilà, tout simplement ensuite en rencontrant Yacasmi, ma compagne avec qui j'écris tous ces films, on a ressenti que elle aussi est quelqu'un de très politique, et que finalement la discussion politique faisait partie de notre relation. Et je pense que du coup, oui, on s'est dit que on voulait faire des films dans lesquels la conviction et la force de conviction faisaient partie du charme des personnages.
Mais quand on s'aime, les convictions politiques, c'est vraiment important.
Conviction politique, c'est un mot un peu peut-être réducteur. Je dirais les valeurs, je dirais oui, l'idéal de société.
La vision du monde.
La vision du monde, qui peut être différente, mais en tout cas, qu'elle soit en discussion, oui, je pense.
En tout cas, le film, il est aussi en écho avec votre vie à vous et votre compagne, qui joue dans le film, hein, déjà, elle joue le rôle de l'institutrice, qui est aussi co-scénariste et dialoguiste avec vous. Vous avez vécu tous les deux à Bagnolet, donc dans cette ville de Seine-Saint-Denis où se passe l'histoire. C'est une ville que vous connaissez bien. En quoi est-elle un bon décor de cinéma, Michel Leclerc?
Ah, c'est un bon décor de cinéma parce que c'est un lieu mixte. C'est-à-dire que puisque un des thèmes principaux du film, c'est la mixité ou la possibilité de la mixité, c'est rien que visuellement, c'est un lieu mixte. C'est-à-dire que dans une même rue, vous pouvez avoir effectivement des petits pavillons qui sont investis de plus en plus par ce qu'on appelle les bobos, entre guillemets. Et puis, au bout de la rue, vous avez une tour où habitent souvent des gens issus de l'immigration, etc. Donc, ce mélange des populations, elle se fait dans un tout petit périmètre, et à filmer c'est très payant, quoi, parce que on n'a pas besoin d'expliquer, c'est déjà dans l'image, quoi.
Oui, c'est une ville où la mixité sociale existe donc dans la rue. Est-ce qu'elle existe réellement à l'école?
Et ben voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que très paradoxalement, mais il n'y a pas qu'à Bagnolet. Je veux dire, maintenant on habite à Paris dans le 20e arrondissement, et je pourrais dire la même chose pour Paris le 20e arrondissement, c'est-à-dire que la rue est beaucoup plus mixte que l'école. C'est-à-dire que habitent dans des quartiers des gens de classes sociales très différentes, mais par contre, ils ne mettent pas leurs enfants dans la même école. C'est-à-dire qu'il y a des tas de procédures d'évitement qui fait que, il y a les écoles, souvent les écoles privées, pour les classes moyennes et supérieures, et il y a les collèges publics et les classes publiques pour les gens des classes plus inférieures. Et ça, c'est un peu dramatique, puisque l'école donc n'est plus le lieu de la rencontre entre les différentes catégories de population du pays. Et ça, c'est dramatique.
Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu foutais là, Adama?
Les enfants, les dames de la cantine voudraient savoir qui est en situation d'arabie pigmentaire à propension musulmane.
Bon, qui mange du cochon?
Il était malade, c'est un temps, Milo?
En fait, on l'a enlevé de l'école pour le mettre à Saint-Benoît.
On veut ce qu'il y a de mieux pour nos gosses, quoi, c'est normal.
Bon, écoute, Valentin, c'est le seul de la classe.
Le seul quoi?
Le seul blanc.
Tu me dis ça à moi en plus?
Oui, mais la mixité, pour que ce soit de la mixité, pour que ce soit de la mixité. Si ça n'est pas de la mixité, ça n'est pas de la mixité, tu vois?
Voici Saint-Benoît, notre protecteur. Mais l'école est aussi accessible aux non-croyants.
Alors moi, je suis avocate et lui est musicien professionnel.
Et je vois que vous avez fait un clip.
Ah non.
C'est comme s'il n'y avait plus d'école pour des gens comme nous.
Hein. Tu supportes personne, tu fous de la gueule de tout le monde, tu crois en rien. T'as encore tout fait foirer avec tes principes de merde.
Nos enfants, ils ont vachement besoin de nous. Ils vous reprochent pas vos absences, Corentin ?
Enfin, madame, j'ai un gamin qui ne va pas bien, là, vous comprenez pas ? Je suis un père de merde en ce moment.
Il est bien, il est avec ses copains. Si des gens comme vous s'en vont de l'école, on est foutus, là.
Bon, c'est-à-dire que personne ne l'encule au sens enculé, le pape.
Ouais. Il est surtout... Voilà. Il est surtout à la batterie.
Voilà, puis les paroles aussi sont... C'est pas... Les paroles.
Voilà, il assume avoir écrit cette chanson, effectivement,
il assume,
personnage. Bon, sauf que c'est vous qui avez écrit en fait les paroles de cette chanson. Vous l'assumez aussi, Michel Leclerc.
Oui, je l'assume. Alors, c'est que je l'assume moins quand mes enfants se mettent à la chanter à l'école.
Oui.
Voilà. Mais en même temps, voilà, le personnage est comme ça, est un peu flamboyant. C'est-à-dire qu'il veut, pas renier ce qu'il a toujours été. Donc voilà, il est pas prêt à ne pas assumer face, en l'occurrence, à un directeur d'une école catholique, pour qui c'est évidemment cette chanson est un peu problématique.
Effectivement. Alors on l'entend aussi dans la bande-annonce, hein, cette phrase que prononce le directeur de l'école, Monsieur Ben Salah, qui est joué par Ramzi Bedia. Il dit si les gens comme vous s'en vont.
Oui.
S'en vont de l'école publique, hein.
Oui.
On est foutu. Ça veut dire quoi, les gens comme vous?
Il y a aussi une autre phrase dans le film où à un moment donné, Paul dit à Sophia que leur fils est le seul blanc de la classe. Et évidemment, Laila Bekti, qui est donc maghrébine, dit, mais comment tu peux me dire ça à moi? Et il répond, oui, mais blanc aujourd'hui, c'est plus une classe sociale qu'une couleur de peau. Et c'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les problématiques de lutte des classes, comme le titre ça, recoupent des fois des problématiques communautaires ou des problématiques culturelles. C'est pas une règle, évidemment. Mais en tout cas, il y a un peu ça. Donc, effectivement, c'est ça qu'elle veut dire. Et nous, on avait été marqués, avec Baya, par une manifestation de mères de famille d'une école près de Montpellier, pratiquement toutes maghrébines, qui réclamaient des blancs dans leur école. Et on avait trouvé ça vraiment marrant, cette idée que la mixité et l'envie de mixité, elle est dans tous les sens. Je veux dire, cette idée que la société, quoi qu'il arrive, gagne à être vraiment mélangée. Mais comme le dit Paul, la mixité, pour que ça soit de la mixité, il faut que ça soit de la mixité, sinon ça n'est pas de la mixité.
Ouais, il y a la mixité et puis la laïcité aussi, et autre grand thème traité dans le film, notamment donc par ce directeur, Monsieur Ben Salah, qui est un type formidable, hein. Il se démène beaucoup, hein. Il sort ce qu'il appelle un peu pompeusement un plan laïcité, il est plein de bonne volonté, ses efforts ont l'air quand même complètement dérisoire, on se dit que c'est quasiment perdu d'avance
non,
pour lui.
Non, je suis pas d'accord pour dire ça. Et ils paraissent dérisoires, ses efforts, mais au moins il en fait, et il a quand même une énergie, et finalement, sans révéler la fin...
Non, surtout pas.
Tout le monde, on a l'impression que tout le monde s'unit pour précisément sauver le directeur. Ce qui veut dire qu'il est quand même... mine de rien, son combat pour que les gens restent, pour que son école soit vivante, il porte quand même ses fruits, il sème quand même des graines. Et donc non, il n'est pas désespéré, son combat. Je crois pas.
Bon, en tout cas, on rit beaucoup de lui, de l'enseignante aussi, Mademoiselle Delamarre, jouée par Baya Kasmi, qui est un petit peu, on va dire, un petit peu trop fidèle peut-être aux méthodes pédagogistes et au vocabulaire de l'école qu'on lui a inculqué. On rit beaucoup, on réfléchit beaucoup. Je le disais, et puis à la scène finale qui est magnifique, qui est drôle, émouvante, et on se rend compte au moment où le film se termine que cette scène finale là, vous l'avez vraiment construite finalement tout au long du film. C'est une forme d'apothéose. Il y a toujours des petits moments comme ça dans vos films, Michel Leclerc, qui sont un peu doudingues, un peu loufoques. Vous avez le secret de dégager cette forme de poésie là. C'est quoi la recette?
Ben moi, je finalement le réalisme pur ne m'intéresse moyennement. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est d'être juste, c'est-à-dire de parler de choses dans lequel les gens peuvent se reconnaître. Vous avez commencé en disant ah ben est-ce que moi je pense ça ou je pense ci,
oui.
En sortant de... Et moi, pour moi, c'est très important. Mais à un moment donné, je fais du cinéma, et si je fais du cinéma, c'est aussi pour faire rêver. J'ai envie que mes comédiens soient glamour, par exemple, et j'ai envie à un moment donné de sortir du réalisme stricto sensu pour aller vers le rêve, vers l'utopie, voilà. C'est pour moi, c'est très important, ça. C'est très important qu'à un moment donné, on se décale et que, on est dans un film.
Ouais, mais on va voir votre film et on va se décaler avec vous à partir de mercredi prochain au cinéma. Merci beaucoup, Michel Leclerc.
Merci beaucoup.
La lutte des classes. Et vous m'en direz des nouvelles.
Main de...
main d'œuvre. Margot BD. Aujourd'hui, je suis
l'artisan du détail. Alors là, je suis sur un métier à tisser manuel. Je suis assise en pente. Je pose mes épaules sur des sangles qui permettent de me tenir un peu en, comme en lévitation au-dessus de mon travail. C'est une position qui est délicate au premier abord quand même. Je m'appelle Margot Declerc et je suis passementière. Passementière ou passementier, ça consiste à créer des éléments de décoration pour fauteuils, canapés, rideaux, énormément de choses qui contribuent du coup à l'art du détail. Je travaille sur une crête. Une crête, c'est un amas de nœuds qui crée une décoration ou un ornement final pour un rideau ou un fauteuil. Là, je tasse mes guipures sur ma crête pour que tout ça tienne bien. Les guipures, c'est une âme de fil en coton qui va être recouverte par une couleur de fil aussi et qui du coup fait comme une petite corde qui du coup nous sert à faire des nœuds et créer des crêtes. Sous mes pieds, j'ai des pédales, un peu comme des pédales de piano. Chaque amas de fil est relié à une certaine pédale. Donc j'ai un rythme bien précis avec mes pédales pour fixer bien tout ça ensemble. Et là, du coup, c'est tout un rythme à apprendre au niveau de où placer mes pieds et quel amas de fil soulever à quel moment. Là, j'ai fini ma crête. Pour mettre des éléments décoratifs, il faut que je fasse ce qu'on appelle une canette. Donc, c'est un petit rondin de bois sur lequel je vais mettre plusieurs fils. Et là, avec mon rouet, je tourne, ça déroule mes fils qui permettent du coup de les mettre tous en même temps sur ma canette ensemble. Je recouvre mon morceau de bois avec tous ces fils-là pour avoir justement de l'avance, avoir plusieurs fils ensemble, tous rassemblés dessus et pour pouvoir faire tous les éléments dont j'ai besoin. Alors avec ce morceau de bois maintenant, je vais aller faire quelque chose qui s'appelle du remplissage, qui est donc une forme de carton sur lequel on va mettre un petit ressort autour. Je fixe mon fil entre un des premiers ressorts et avec ma main droite, je fais tourner la canette pour remplir de fil cette forme en carton, pour qu'on ne voit plus le carton. Donc vous avez un espace peut-être de moins d'un millimètre entre chaque petit ressort. Je viens de finir de recouvrir le carton et donc ça s'appelle un remplissage. Là qui est en forme de petite fleur. Du coup maintenant je vais pouvoir fixer ma petite fleur sur ma crête pour pouvoir finir de décorer. Moi je suis donc passementière de père en fille sur cette génération. On existe depuis 1852. On tient beaucoup à garder cet artisanat tel qu'il est et tel qu'il était, donc avec des techniques ancestrales et qui se passent au fur et à mesure. Il n'y a pas d'école, donc il y a une passation aussi qui se fait comme ça, qui est très jolie. Donc c'est entre nous qu'on apprend ça.
Aujourd'hui, j'étais
l'artisan du détail
sur RFI.
Café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Amélie Beaucourt, Fanny Blechner et Alain Pilot. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Jean-François.
On va fêter un anniversaire dans un instant avec vous, Fanny. On va donc souffler des bougies.
60 bougies, celles du petit Nicolas. Pourtant, vous verrez que ce petit garçon, inventé par René Goscinny et Jean-Jacques Sempé, n'a pas pris une ride, notamment parce que son univers inspire toujours enfants, adultes et artistes.
Elle est plus jeune, mais c'est déjà le 8e album pour Clarica, Alain. Une chanteuse qui a son public, mais visiblement pour vous, pas la reconnaissance qu'elle mériterait.
Exactement, Jean-François. Clarica est un nom qui parle aux adeptes de la chanson française, mais pas assez pour que l'on puisse tout de suite penser à un morceau de son répertoire. Et pourtant, Clarica est une auteure de talent qui s'est toujours entourée de compositeurs plus qu'à la hauteur. Preuve en est Florent Marché, chanteur aussi, qui signe ici la plupart des titres de ceux à la lisière.
À Allez, on part en Afrique de l'Ouest pour commencer au son de la cora et du balafon. Il est signé Morikante. Ce morceau, il rythme les pages d'un livre audio jeunesse, Cocorico, balade d'un griot. C'est un disque RFI Harmonia Mundi. L'album a d'ailleurs reçu à Amélie la semaine dernière le prix coup de cœur musique du monde de l'Académie Charles Cros.
Il était une fois, en plein cœur de l'Empire du Mali, un village qui se préparait à un heureux événement.
Cocorico, balade d'un griot. En pays mandingue, dans la forêt autour du lac au Caïman, le coq blanc mystique est apparu. Celui qui vient annoncer les grandes venues. Dans la cinquième case, derrière le terrain rouge, à 96 pas des grands arbres, 96, entends bien. Pas un de plus, pas un de moins. Un nouvel humain va naître.
Cette voix que vous entendez, c'est celle de l'acteur Reda Kateb et les chansons dont s'inspire le texte ont été composées par le grand Morikante. Sur la base de simples ballades musicales et des légendes qui bercent son pays natal, la Guinée, il a demandé à deux autrices d'en faire un conte pour enfants. Elles s'appellent Zina Tamiato et Marie-Emmanuelle Ramirez, et voici comment elles ont composé ensemble ce texte.
Mori avait le souhait d'en faire un conte, une histoire, mais qui s'adresse pas seulement aux enfants d'Afrique, mais à tous les enfants du monde. Donc il se passe quelque chose en Afrique, c'est un continent magique, ça tout le monde le sait, et nous on s'est dit, il faut vraiment qu'on parle de cette culture qui vient du berceau du monde, mais qui ensuite a été diffusée dans le monde entier.
D'abord, on a fait des recherches sur l'épopée de Sundiata Keïta, en fait, qui, comme vous le savez, est un poème épique, qui est une histoire absolument incroyable, hein, qui est chantée depuis 8 siècles et qui raconte la fondation de l'Empire du Mali. En fait, il fallait, sans raconter spécifiquement cette histoire de Sundiata, il fallait qu'on en capture l'âme et qu'on arrive à rendre hommage à ces griots qui sont détenteurs d'un immense savoir.
L'histoire est donc celle d'un enfant qui naît sous la bonne étoile d'un coq blanc, protecteur. Perché tout en haut d'un arbre, il annonce l'arrivée du bébé aux enchanteurs du monde entier et demande au jeune Sundiata Keïta, père de tous les griots, de rassembler les valeurs de la vie qui seront données à l'enfant.
Le coq se grandit, creuse avec son ergot le grand Finsan et fait la lumière de ses plumes blanches. Le coq a chanté une nouvelle fois.
C'est mon vrai chant de coq qu'on entend dans le disque. Je tenais quand même à vous le dire.
Ouais. Est-ce que c'est difficile un rôle de coq blanc ? Je pense que c'est la première fois que vous en jouez un.
C'est la première fois que je joue un coq, ouais. Et j'ai fait pas mal de prises, de cris, de chants du coq au micro. Pendant 3 mois, on mange que des graines, on essaye de pondre des œufs. Comment on se prépare ? Moi, j'ai juste lu l'histoire et puis... Les quelques jours qui ont précédé l'enregistrement en studio, je me le suis mis un tout petit peu en bouche, mais j'ai assez peu préparé en réalité. L'idée, c'était d'être dans la spontanéité du moment, comme si je la disais pour la première fois.
Dire un conte et non le lire, elle est là toute la complexité de l'exercice. Parce que les griots, eux, n'avaient pas d'antisèche quand ils racontaient et chantaient leurs histoires.
Alors le conte se déroule donc en pays mandingue, mais Amélie, il ne concerne pas que l'Afrique.
Non, pas que l'Afrique, parce qu'il parle d'amour, d'amitié, de tolérance. Elle parle en fait à tout le monde cette histoire. Et Zina, l'une des deux autrices, a été particulièrement touchée.
Moi, je suis serbe d'origine et je trouve très intéressant, en me frottant à d'autres cultures, d'aller chercher cette part d'universalité dans quelque chose dans lequel j'ai pas baigné en fait. Et c'est cet enrichissement qui me touche. Le fait de se dire que les cultures ne sont pas en concurrence, qu'elles se renforcent les unes les autres. Et plus on s'ouvre et plus on est fort. Et je pense sincèrement que deux petites européennes comme Manu et moi ont le droit et peut-être même le devoir d'écrire un conte africain. De la même manière d'ailleurs que deux femmes africaines peuvent et doivent écrire un conte berrichon. C'est ça, c'est la beauté de l'écriture, c'est la beauté de l'humanité. Et moi, quand je plonge dans l'âme du pays mandingue, je plonge dans l'âme de l'humanité.
Zina Tamiato à votre micro, Amélie. L'album, lui, il est disponible en grand format depuis le mois de février et ses illustrations ont quelque chose d'atypique.
Oui, parce que la plupart du temps, quand on a entre les mains un conte africain, les paysages se dessinent dans des tons ocre, marron ou jaune. Mais cette fois, on a toutes les nuances de l'arc-en-ciel et c'est ce qu'explique Lauriane, l'illustratrice.
L'idée, c'était vraiment d'avoir des couleurs originales, qui sortait un peu des couleurs traditionnelles qu'on associait à l'Afrique. On voulait un peu sortir de ça justement et bousculer un peu les codes en ayant un parti pris de couleurs très vives, des contrastes assez forts. Je travaille souvent justement avec des contrastes assez marqués. Puis on est d'ailleurs dans un univers assez onirique aussi, c'est pas très réaliste. Mais au niveau des formes, du travail des personnages, et du décor, on a quelque chose de très varié qui est assez poétique également. Donc je pense qu'il y avait voilà, la volonté d'être dans quelque chose de vraiment original, un peu bousculer les codes justement.
Sur la dernière planche du livre, le village se réunit pour la naissance de l'enfant et la renaissance de toute une histoire. Sur les airs d'un yéké yéké remasterisé, le tube planétaire de Mori Kanté, les percussions africaines nous invitent à chanter à nouveau cette balade. Elle nous est racontée par un griot, elle parle d'un futur griot et elle incite chaque petit lecteur à devenir à son tour un passeur d'histoire.
Abélie Beaucourt dans le Café Gourmand de VMDN sur RFI. Bon, si j'ai bien compris, Fanny, vous allez donc nous rajeunir encore un peu. Un retour cet après-midi dans la cour de récré.
Oui, petite cœur de jouvence pour tout le monde. Et on pourrait bien s'inspirer pour ça du petit Nicolas, puisqu'il fête précisément aujourd'hui ses 60 ans, mais qu'il a toujours la même bouille de petit garçon farceur. Émar Duchâtenay a créé avec Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, les éditions IMAV, celle qui publie aujourd'hui le petit Nicolas.
Le petit Nicolas est un personnage culte. C'est un personnage qui fait partie du patrimoine de la culture française. Il incarne depuis des années la quintessence de la littérature jeunesse. C'est un conte écrit par René Goscinny et dessiné par Sempé. Et le petit Nicolas n'a jamais cessé d'enchanter toutes les générations et reste une référence en termes de littérature jeunesse, parce que les textes sont admirablement écrits par Goscinny, qui réussit à se mettre dans la peau d'un enfant qui fête son 60e anniversaire, mais qui en fait a entre 7 et 12 ans. Goscinny expliquait, en fait c'est le monde à hauteur d'enfant.
Et en fait, ce qui permet au petit Nicolas de traverser les époques, c'est son écriture.
On peut vraiment parler de référence culturelle.
C'est très difficile d'écrire comme le petit Nicolas. Goscinny a réussi un tour de force, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'imiter le style du petit Nicolas. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'un chef-d'œuvre de la littérature tout court, pas de la littérature jeunesse, de la littérature. C'est une œuvre de référence. Et donc effectivement, c'est un bel hommage à l'œuvre de Goscinny et de Sempé, dessinateur. Et le fait que cette œuvre intègre un lieu dévolu à l'art comme la Fondation Louis Vuitton, c'est une très belle reconnaissance et une façon de reconnaître cette littérature, texte et dessin, au rang d'art, d'art à part entière.
Alors pour précision, Émar Duchâtenay évoque la Fondation Louis Vuitton parce qu'une quarantaine de dessins originaux vont être exposés à l'occasion donc de ce 60e anniversaire.
Alors c'est vrai que le petit Nicolas, il est né dans les années 60, je l'ai lu évidemment, vous l'avez sans doute également lu Fanny, et, ouais. Et il continue à se vendre.
Et 15 millions d'exemplaires à travers le monde pour l'ensemble des titres traduits en 40 langues.
Le petit Nicolas, figurez-vous, en 2019 n'a jamais aussi bien marché. Il se vend plus, pour être très direct, qu'il ne s'est jamais vendu. Pourquoi ? Parce que quand Goscinny et Sempé ont créé le petit Nicolas, ce qu'ils expliquaient d'ailleurs, il était déjà démodé, parce que c'était leur souvenir, eux ce sont des enfants des années 30. Donc quand ils le créent dans les années 60, c'est déjà démodé. Parce que le petit Nicolas est indémodable. La salle de classe du petit Nicolas, il y a qui ? Il y a Agnan, le premier de la classe, qui est une tête à claque. Il y a Eudes, qui donne des coups de poing à tout le monde, qui est le bagarreur. Il y a Alceste, le meilleur copain, qui est un gros qui mange tout le temps. Il y a Geoffroy, le gosse de riche. Il y a Rufus, qui a un papa qui est agent de police. Mais ça, dans toutes les écoles du monde, il y a cette topographie des enfants. Et c'est pour ça que le petit Nicolas marche très bien, par exemple, à l'international, en Allemagne, en Pologne. On vend plus de petits Nicolas en Allemagne et en Pologne qu'en France. En Corée du Sud, c'est un véritable best-seller. Pourtant, l'école décrite du petit Nicolas, c'est cette France des Trente Glorieuses, n'a rien à voir, on pourrait le penser, avec une école ou à l'éducation des enfants coréens aujourd'hui, sans doute très branchés sur les nouvelles technologies.
Bon alors je tiens quand même à nuancer légèrement cet enthousiasme, je suis allée rendre visite aux principaux intéressés, les enfants, oui. Des élèves de CM1 d'une école du 20e arrondissement à Paris, pas de Geoffroy, Eudes ou Marie-Edvige, prénom un peu suranné mais qui pourrait bien revenir au goût du
on
jour,
sait jamais.
Des enfants du 21e siècle qui eh bien, ne connaissent pas tous le petit Nicolas.
C'est une histoire ou un film, mais de base c'est une histoire. Quand on regarde en dessin animé, on a l'impression que c'est une histoire d'il y a longtemps, un peu dans les années 1900. Je connais pas.
Ça doit être un petit garçon, parce qu'il s'appelle Nicolas.
Et j'ai aussi un livre qui s'appelle Les bêtises du petit Nicolas.
comme le dit le titre, c'est toutes les bêtises qu'il fait.
Il y a plein de livres et moi j'ai un qui s'appelle La récré de Noël.
J'ai regardé la moitié du film mais je me rappelle plus.
Oui, bon, il y en a quand même ces enfants, hein, Fanny, qui parlent de dessins animés et de films.
Oui, il faut dire que le personnage a pris des couleurs depuis les illustrations en noir et blanc de Sempé. Il y a eu deux films au cinéma avec Cadmerade et Valérie Lemercier. Un long dessin animé sortira aussi au cinéma en 2021. Des dessins animés, il y en a déjà eu sur M6. Une nouvelle série sortira l'an prochain, cette fois consacrée aux vacances du petit Nicolas, à l'occasion d'effacer quelques détails qui peuvent aujourd'hui faire tiquer. Nathalie Altman est productrice chez Media Valley.
Le fait de situer l'action en vacances permet finalement de gommer certains aspects qui pourraient sembler très ancrés dans le temps. Le fait que les garçons n'étaient pas dans des classes avec les filles, par exemple, à l'époque, ou se poser les questions de la maman, c'est est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle travaille pas. En vacances, par définition, personne ne travaille et les garçons et les filles sont mélangés. Donc c'était une façon de plus poser ces questions et de se situer dans un contexte un peu intemporel, parce que les vacances, finalement, du début des années 60, elles ressemblent aussi aux vacances actuelles. On est avec ses parents, on est à l'hôtel, on va au restaurant, on va à la plage, on se baigne, on passe du temps avec ses copains.
Une façon en fait de revisiter l'œuvre de Goscinny et Sempé. Et puis Fanny, il y en a aussi qui ont choisi la technologie dans cette optique.
Oui, avec la réalité augmentée, Claire Failly, auteur et éditeur, nous explique le fonctionnement d'un cahier de dessin animé.
Quand on ouvre le cahier, on tombe tout de suite, enfin le livre plutôt, on tombe tout de suite sur le texte Le Bouillon. Donc ça raconte l'histoire des enfants à l'école, la maîtresse est malade. Le surveillant s'appelle Le Bouillon. Pourquoi Le Bouillon ? Parce que il dit tout le temps « Regardez-moi dans les yeux » et dans Le Bouillon, il y a des yeux. Ça, c'est le petit Nicolas qui explique. Donc on a la première partie du texte et puis en face du texte, on a Le Bouillon qui est en train de regarder Clotaire droit dans les yeux. Et si on prend cette page en photo et qu'on l'anime, voilà.
La maîtresse est malade aujourd'hui. Je ne peux pas rester avec vous. Alors regardez-moi dans les yeux et promettez-moi d'être sage.
Donc en une page, on a un texte à lire, une illustration à colorier et un dessin animé qu'on vient de personnaliser à regarder. Et au fur et à mesure, quand on tourne les pages, on construit la suite de l'histoire.
À noter aussi la parution à l'occasion de ce 60e anniversaire d'un recueil, Le Petit Nicolas fait la fête.
Et la fête, regardez-moi dans les yeux, Fanny, ce sera donc ce week-end à la Fondation Louis Vuitton avec différentes animations.
Jamais à Venise.
Venise est rien que pour les cons.
Se gondoler sur la Tamise.
Même pas de quoi en faire une chanson. On n'ira jamais à Venise.
Venise c'est qu'une ville de pigeons.
Ceux qu'on plume pour quelques devises.
Ceux qui ripollinent vos petons.
Tarika en duo avec le Québécois Pierre Lapointe, Venise, tiré du nouveau disque de la chanteuse à la lisière sur RFI, un disque Alain qu'elle défend déjà en tournée.
Et à ce sujet, quelle dimension prend une chanson sur scène, Clarica ?
Bon, déjà, elle est revisitée parce que on fait aussi en fonction des musiciens qui sont là. Donc, on essaie de retrouver l'origine du morceau, mais on peut aussi la. Parfois, on la transcende, parfois, on la bidouille. Enfin, par exemple, là, les exercices. Bon, sur l'album qu'on sort là, c'était relativement facile, mais sur les chansons plus anciennes que j'ai déjà chantées souvent, moi, c'est important, je trouve, à chaque fois de les revoir de manière différente. Il y a des chansons que je chante depuis des années. Donc, je fais une chanson comme Les garçons et vestiaires. À chaque fois, j'essaie de trouver un axe différent pour déjà, moi, pas m'ennuyer, me surprendre et surprendre le public et les gens qui viennent à chaque tournée. Donc, il y a ça. Donc, c'est ça aussi, c'est proposer aussi des versions alternatives, mais en respectant. Moi, je tiens quand même à ce qu'on retrouve la chanson et que ne pas la déconstruire pour que ce soit quelque chose d'autre. Parce que je pense que quand on est public, on a plaisir aussi quand c'est des titres qu'on connaît et qu'on reconnaît. On a envie de les retrouver aussi. Donc, faut être sur. C'est l'équilibre entre ça, entre ne pas être dans la même chose, mais en même temps qu'on retrouve vraiment le corps de la chanson.
Puisque le bonheur, c'est pas pour les chiens, puisque nos erreurs nous grandissent enfin, puisque la misère du monde, on saura comment faut se la faire avec nos petits bras, même pas peur.
Même pas peur, le premier extrait de ce 8e opus de Clarica au sein duquel on valse avec les courants d'air, on inspire l'air. Que faut-il justement pour qu'un air touche Clarica, à l'instar sans doute de celui dissonant et attachant de Je suis ton homme que lui a signé Jean-Jacques Nissen, son ex-compagnon.
Je pense que sur une chanson, c'est une alchimie. C'est con, mais c'est banal ce que je dis, mais c'est effectivement la mélodie, mais c'est aussi l'arrangement, parce que ça peut changer beaucoup de choses. Même si je pense qu'une chanson doit se tenir sans arrangement et doit s'écouter comme ça, à l'état pur. Mais il y a aussi des chansons, effectivement, qui prennent le... Et celle-là est un bon exemple, je trouve, parce que cette chanson-là prend aussi son sens avec tout ce qu'il y a derrière, y compris cette espèce d'arrangement un peu répétitif, un peu dissonant, effectivement, qui correspond bien au propos.
Je suis ton homme, ça marche, ça roule ma poule. Je suis ton homme. Mais tu veux quoi que je te plaise ?
Clarica, je suis ton homme.
Clarica, adepte de la reprise, au point d'avoir lancé un appel sur les réseaux sociaux pour que ses fans lui en suggèrent une nouvelle à interpréter lors de ses prochains concerts.
Bah, après nombreuses propositions qui lui ont été faites, laquelle a-t-elle choisi ?
Bah, je dis pas, c'est une surprise. Ça, c'est vraiment le bonus pour les gens qui viennent me découvrir ou me redécouvrir en concert.
Alors, les précédentes furent My Sweet Lord, Heroes, Gala, Antisocial, Femme, Jess Brown. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'exercice de la reprise ?
Bah, évidemment, c'est de revisiter complètement un titre, hein, d'en faire autre chose, ou alors qu'il s'insère à un moment inattendu dans le spectacle. C'est aussi chanter des mots qui ne sont pas les vôtres. Pour le coup, c'est un autre plaisir, c'est un autre. Moi, j'adore ça aussi. C'est une autre manière d'aborder, et puis c'est prendre une liberté par rapport à quelque chose qui existe déjà et qui a une couleur. Une identité, et en faire sa petite cuisine.
Elle est française, elle est anglo-saxonne la prochaine ?
Elle est anglo-saxonne, ce qui est un gros challenge pour moi parce que j'ai un accent anglais qui explique pourquoi j'ai un peu limité ma carrière internationale.
Donc elle n'est pas traduite ?
Elle n'est pas traduite parce qu'elle s'insère dans un titre auquel elle colle très bien, et pour le coup, justement, pour une fois, j'ai essayé de la faire clairement dans l'esprit de la chanson, parce que c'était un vrai challenge pour moi, c'est-à-dire en étant assez proche du style et de l'identité du titre.
Clarica, qui aime décidément les Lapointe après Pierre, elle reprenait ici Bobby Lapointe dans Comprenne qui peut en 2002 sur l'album Bobby Tutti Frutti, l'hommage délicieux à Bobby Lapointe de Lily Cube.
Suite et fin de la découverte de son 8e disque à la lisière, Alain.
Cette lisière que l'on retrouve dans ce proverbe et ces deux citations, dont l'une ou l'un va peut-être retenir l'attention de Clarica. Le défi de l'art consiste à se trouver constamment la lisière de la vérité sans jamais s'y aventurer. Robin Cook, écrivain britannique, ou prend l'étoffe d'après la lisière et la fille d'après la mère, proverbe turc, ou encore tout jugement oscille sur la pointe de l'erreur. La connaissance est une perpétuelle aventure à la lisière de l'incertitude. Frank Herbert, écrivain américain.
Celle qui me résonne le plus, c'est la dernière.
Tout jugement oscille sur la pointe de l'erreur. La connaissance est une perpétuelle aventure à la lisière de l'incertitude.
Je trouve ça pas mal, c'est assez beau.
Merci infiniment, Clarica.
Ben merci.
Tout est devant, tout est derrière. Quand on est juste à la lisière, là.
Clarica, La Lisière, et l'album s'intitule À la Lisière. Elle sera notamment en concert le 3 avril à la Cigale à Paris. Merci Alain, merci également à Fanny, Amélie.
Quand on est juste à la lisière, à la lisière. Ça tangue un peu, ça bouge, ça penche. Quand on est juste à la lisière.
Dans un instant, le journal, on se retrouve lundi. Nous partirons à la découverte du trésor de Toutankhamon avec l'égyptologue Dominique Farou, et vous m'en direz des nouvelles.